La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard. Retour
bonjour.
Sur une journée qui a secoué la Tunisie tout entière.
Oui, la Tunisie secouée, pour reprendre les mots du Guardian, tant il est vrai que ça fait beaucoup pour un seul pays en une seule journée. D'abord, ces deux attaques terroristes, attentats suicides à moins d'une heure et quelques kilomètres d'écart dans le centre de Tunis. D'abord, avenue Charles de Gaulle, à 15 mètres de l'ambassade de France, comme le note Al Jazeera, puis dans le quartier d'El Gorjani, contre les bureaux de la section antiterroriste. On le rappelle, un policier tunisien a été tué, un autre blessé, tout comme une dizaine de passants. L'organisation État islamique a rapidement revendiqué ces deux attentats, complète le HuffPost tunisien, qui ajoute aussi une troisième attaque terroriste déjouée, cette fois dans la nuit précédente, contre une antenne de transmission radiophonique dans le centre du pays. Et puis il y a l'autre secousse, d'une toute autre nature, mais vraiment concomitante. Les Tunisiens, au moment où ils apprenaient ce retour de la violence djihadiste dans leur pays, étaient aussi informés du fait que leur président, Béji Caïd Essebsi, venait d'être hospitalisé dans un état critique. BCE, selon ses initiales, est âgé de 92 ans. On savait sa santé préoccupante depuis un premier malaise il y a une semaine. Alors cette fois, reconnaît Capitalis, les rumeurs ont immédiatement pris corps pour évoquer son décès, soi-disant dissimulé par l'appareil d'État. Alors ce matin, les bilans de santé se veulent plutôt rassurants. En tout cas, l'état du président est qualifié de stable par le HuffPost. L'état de santé de BCE qui s'améliore, donc, indique même son fils Afed au quotidien La Presse. Et c'est vrai qu'il faut rassurer les Tunisiens, tant semble vive l'inquiétude autour de ce qui se passerait sur le plan politique si ce pilier de la République qu'est Béji Caïd Essebsi venait à disparaître soudainement.
D'ailleurs, les événements d'hier surviennent à 4 mois d'élections cruciales pour la Tunisie.
Oui, c'est le site d'info spécialisé sur le monde arabe Al Monitor qui nous remet face à ce calendrier. La Tunisie doit tenir en octobre et novembre prochain deux scrutins, législatifs puis présidentiels, où se jouera justement la succession d'Essebsi et plus largement la suite du fragile processus démocratique engagé depuis la révolution de 2011. Processus dont ECB s'était toujours porté garant du haut de sa longue expérience politique. Al Monitor nous rappelle au passage le climat tendu qui accompagne les préparatifs de cette période électorale. Plusieurs opposants au pouvoir actuel accusent ce dernier d'avoir changé les règles électorales tout récemment pour les empêcher de concourir à la présidentielle. Pas plus tard qu'hier, sur l'antenne de RFI, Nabil Karoui, favori dans les sondages pour le moment, accusait le parti Ennahda d'en revenir aux vieilles méthodes de la dictature Ben Ali pour lui barrer la route. Ces tensions, jusque-là, étaient apaisées par la stature d'Essebsi, analyse Amberine Zaran dans Al Monitor. Si le président vient à mourir avant les élections de l'automne, eh bien, les esprits et les ambitions risquent de s'échauffer en Tunisie, d'autant que la question de l'intérim à la présidence est loin d'être réglé. La constitution tunisienne, nous dit-on, prévoit qu'au-delà de 60 jours de vacances de pouvoir, c'est le président du Parlement, Mohamed Ennasser, qui devrait prendre le relais, sauf qu'il a lui-même 85 ans et qu'il a aussi été hospitalisé la semaine dernière, comme d'ailleurs son adjoint au perchoir, qui est troisième sur la liste de succession. Autant dire que, politiquement, la Tunisie est dans une zone de turbulence et que les terroristes qui ont frappé hier ne l'ont sans doute pas fait par hasard. Les attaques de Tunis déstabilisent le pays d'autant plus, écrit enfin Amberine Zaran, et qu'ils le mettent face à la question irrésolue du retour au pays des djihadistes tunisiens engagés en Irak et en Syrie, dans les rangs du groupe État islamique dont ils composaient l'un des contingents les plus importants.
Et le sommet des 20 chefs d'État les plus puissants au monde s'est ouvert il y a 2 heures à Osaka au Japon.
Et un G20, c'est l'occasion de faire le point sur l'état du monde, sur sa gouvernance, aussi un bilan d'étape dont nous gratifie Vladimir Poutine dans le Financial Times d'hier. Le président russe pose tout de suite les bases de sa vision du monde. L'idée libérale, professe-t-il, est obsolète, sur le point de s'éteindre, terrassée par ces erreurs cardinales que serait l'ouverture des frontières à l'immigration et plus globalement le multiculturalisme, accusé par Vladimir Poutine d'avoir éloigné les élites politiques libérales des aspirations de leur peuple. Voilà donc venir, selon le président russe, l'ère des national-populistes, dont on sait qu'il en est un très efficace sponsor dans nos démocraties. Mais il faut bien reconnaître que si elles sont largement reprises dans les médias occidentaux, ces grandes considérations politiques ne sont pas vraiment ce qui passionne la presse russe depuis hier. Non, ce qui fait la une à Moscou, c'est la question du successeur. La Russie est obnubilée par cette question. Comment Poutine, après 2 décennies au pouvoir, va-t-il organiser sa propre et inéluctable mise en retrait de la scène politique? La question lui a donc été posée par Lionel Barber du Financial Times et les Izvestia russes tentent de décrypter la réponse. Bien sûr, dit Vladimir Poutine, je pense à qui pourrait me succéder depuis le début, depuis depuis 2000. Mais l'ironie et la leçon de démocratie ne sont pas loin. Et comme il est face à un journaliste anglais, Vladimir Poutine envoie une pique au système politique britannique. Chez nous, dit-il, en Russie, quel que soit l'homme ou le parti au pouvoir, c'est toujours le peuple qui décide à la fin, par le vote. L'attaque, vous l'aurez compris, vise le processus en cours de désignation du prochain Premier ministre britannique, car c'est le parti au pouvoir, les conservateurs, et non le peuple entier, qui va désigner le successeur de Theresa May. Qu'on le veuille ou non, toute l'intelligence politique de Vladimir Poutine est contenue dans cette réponse. On l'interroge sur les limites de la démocratie russe et il nous renvoie systématiquement aux faiblesses de la nôtre.
Merci Camille Magnard pour cette revue de presse internationale. Il est 7h41 sur France Culture.